Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 3 avril 2026. On se retrouve avec un Bitcoin toujours plus ou moins à l'équilibre, que ça soit en hebdo, en mensuel ou en journalier, 66 700 $ au moment où j'enregistre cette émission. On est malgré tout à moins 22% en year to date, moins 30% pour Ethereum, BNB moins 26, moins 27 pour XRP, moins 31 pour Solana. Il n'y en a qu'un qui continue en annuel d'être largement dans le positif, ou deux du moins dans ce top 10, c'est Tron avec le TRX qui est vraiment très très stable sur ses appuis. L'intégralité de la ligne est dans le vert, et ainsi que Hyperliquid qui est à plus 61% donc sur le year to date et 36% sur le mensuel. On a quelques performances en hebdo qui malgré tout essaient de tenir la tête hors de l'eau, comme Stellar 4% en hebdo, 5% en mensuel, mais il faut reculer ensuite jusqu'à Tao Bitensor pour voir à nouveau du vert, 83 en mensuel, 49 depuis le début d'année. On voit que les lignes sont assez disparates. En tout cas, quand on observe du côté des altcoins, on a peut-être également Render qui se place et s'intercale quelque part à mi-chemin entre l'infrastructure et l'intelligence artificielle, et on est donc à 17,40 en mensuel et 33% depuis le début de l'année. Vous l'avez vu certainement passer ces jours-ci du côté des réseaux sociaux, Google alerte au niveau de son pool de recherche sur le quantique et ce que pourrait imposer tout simplement en termes de calendrier de transition à l'ensemble de la cryptographie. Alors, ils ont pris pour exemple Bitcoin, bien entendu, puisque ça parle, je pense, aujourd'hui à bon nombre de personnes, et notamment d'aficionados de la blockchain et de la cryptographie au sens strict du terme. Mais c'est vrai que les avancées qu'on peut voir d'ores et déjà du côté de l'intelligence artificielle, qui prend petit à petit une avancée considérable par rapport à la blockchain, en tout cas, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Et si on y adjoint bien entendu des calculs quantiques, on pourrait mettre à mal d'ici à 2029 tout simplement l'intégralité de la cryptographie en cassant les algorithmes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc Google qui alerte de se dire que dans 3 à 4 ans, on a besoin de rendre les algorithmes quantique proof. Donc on va voir si Bitcoin, qui comme on le répète souvent, est un grand paquebot un peu ossifié qui est difficile à manœuvrer, va réussir cette transition, ou s'il faudra attendre le dernier moment d'être presque au pied du mur pour que ça commence à bouger. De notre côté, Ethereum apparemment a l'air tout à fait prompt à le faire rapidement, et ils ont déjà démontré par le passé au moment du merge qu'ils étaient capables de réaliser l'impossible. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il y a quelques années, tout le monde s'en moquait en disant « Ok, le quantique c'est loin, arrêtez de jouer un petit peu avec votre caca et tout, ça nous inquiète pas, machin. » Et là, on a le pool le plus important de Google, donc Google Research, qui alerte sur le fait que d'ici à 2030, on pourra avoir des implications qui seraient assez catastrophiques. C'est d'autant plus qu'on ne mesure pas à quel point on va avancer justement dans ces 3 à 4 années qui nous séparent de 2029 autour de 2030. Donc, si on fait des comptes, j'aime bien calculer de 4 ans en 4 ans et de 5 ans en 5 ans, c'est ce à quoi nous ont habitués les crypto-monnaies avec ce bon vieux cycle. En parlant de crypto, c'est Circle qui se prépare à lancer son Wrapped Bitcoin, donc le CWB. Il sera backé un pour un en BTC, et donc le CIRBTC pourra servir tout simplement en DeFi de collatéral, etc., avec donc toutes les utilisations que l'on connaît aujourd'hui à des dérivés donc synthétiques qui permettent d'utiliser sur la blockchain Ethereum du Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt positif. Toujours du côté de Ethereum, bien que ça va être déployé sur bon nombre d'autres blockchains, AAV4 qui se nomme AAV4 Pro en réalité du côté de l'interface est désormais disponible. Donc une très bonne nouvelle, notamment pour l'unification de la liquidité, et vous pouvez en plus, en fonction de ce que vous empruntez, en fonction de ce que vous déposez, avoir des meilleurs ratios quelque part. Donc je vous invite bien entendu comme d'habitude à faire vos propres recherches. Je vous rappelle également que récemment il y a eu pas mal de houle autour de AAV entre la vision du début très décentralisée portée par une poignée d'irréductibles et la vision centralisée slash entreprise qui est portée par Stani, le fondateur. Donc c'est à prendre en considération pour ceux qui spéculent ou qui utilisent AAV. Comme on le répète souvent, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais aujourd'hui malgré tout c'est une pierre de plus à l'édifice de AAV avec cette V4 qui, on l'espère, leur apportera le meilleur. On avait la révélation de nouveau nouveau d'un leak potentiel du côté d'un acheteur de l'or, puisqu'il s'agit de Gold Union, leader de l'achat et de la vente d'or d'argent en France. Il se serait fait voler un fichier avec plus de 120 000 acheteurs d'or potentiellement compromis, avec des cartes d'identité, l'identité, l'adresse, les transactions. Donc en ce moment, si c'est pas un par jour au niveau de la France en termes de leak, c'est assez catastrophique. Donc si vous êtes dans ce fichier Gold Union, peut-être c'est le moment de délocaliser, si vous avez des lingotins, des pièces à la maison, vers un coffre externalisé. Et enfin, on clôture au niveau de ces informations avec le lancement réussi de Artemis 2. Ça n'est pas sans rappeler le film à l'affiche en ce moment, Projet Dernière Chance, Hail Mary, qui vraiment est extraordinaire pour le coup. Je ne m'étais pas fait spoiler avant d'aller le voir et j'ai été très content de ce que j'ai découvert au cinéma. Donc une belle réussite, un moment historique, puisque d'ici Artemis 3 ou 4, 2027-2028, il prévoit de reposer le pied sur la Lune. Donc c'est une continuité et l'espoir peut-être d'aller conquérir plus tard de nouvelles étoiles, ou du moins cet espoir qu'avait Elon Musk également par la suite de se rendre du côté de Mars. On part sur l'analyse technique, on va essayer de faire relativement court puisqu'il n'y a pas énormément plus qui s'est passé depuis ces dernières semaines. Toujours cette problématique autour de l'Iran, du détroit d'Hormuz, des États-Unis, Donald un jour blanc, un jour noir, on ne sait pas sur quel pied danser et les marchés deviennent très tendus, très volatiles. Malgré tout, on a le VIX qui est redescendu à 24, on n'était pas très loin ces 2-3 dernières semaines de venir chercher la zone des 36 et plus, là où ça dérape finalement. Donc les marchés n'ont pas pris peur, si on peut résumer ça ainsi. L'US Oil est au-dessus de l'UK Oil, c'est à noter à $112 le baril, tandis que l'UK Oil est autour de $109. On est sur des progressions en dizaines de pourcents. On a le money supply, donc le money stock américain, qui nous fait un très beau rebond. Donc aujourd'hui, en termes de liquidité, on est plutôt bien servi pour les marchés. C'est peut-être aussi ce qui, par effet de bord, permet d'absorber ce genre de choc sans qu'on ait des descentes complètement folles. Ceci étant dit, comme vous pouvez le constater, on a une première phase de distribution au niveau du S&P 500. C'est pareil pour le Nasdaq. Moyenne mobile 50 qui permet malgré tout de faire réagir le cours. Mais à minima, je suppose qu'on aura la possibilité avant l'été ou au cours de l'été de revoir les 6150 points pour le S&P. Et ça serait une correction vraiment mineure d'une dizaine de pourcents. On a le RSI aussi qui a pas mal planté ici autour de 35-36. Le MACD qui arrive proche de la zone neutre. Donc c'est normal que ça ralentisse. On se pose aussi beaucoup de questions pour la suite de si on ne va pas rentrer dans un monde tout court en stagflation avec des prix à la consommation qui vont exploser. Plus longtemps, en fait, le détroit d'Hormuz reste bloqué, plus ça va être catastrophique, et notamment pour la zone européenne. Les États-Unis vont en souffrir aussi, mais eux, ils ont des problèmes aussi un peu plus internes à régler, et notamment, on va voir ce que va donner l'arrivée du nouveau président de la Fed par la suite, par rapport à des taux que théoriquement, il n'est pas censé pouvoir baisser, voire même si l'inflation repart, il devrait remonter les taux. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça peut aussi faire prendre peur à un moment donné à toute cette économie américaine qui semble très forte sur le papier. Mais on est dans un monde qui est tellement polarisé aujourd'hui que le moindre grain de sable dans cette énorme mécanique peut très rapidement faire dérailler les choses. On a les taux qui sont en train de se poser, le 30 ans, le 20 ans, le 10 ans aux États-Unis, qui malgré tout pour le 20 et 30 sont très proches des 5%, et en même temps qu'on a un dollar DXY qui vient coller à 100 points, donc sur une zone où c'est une zone de pivot. Ça fait très longtemps qu'on n'arrive pas à passer, mais quand ça passera, on rejoindra les 103 points dans un premier temps, médiane de range, et le haut de range de l'ère Trump est autour de 110 points. Concernant les métaux précieux, ça continue de faire un petit peu le yo-yo, 4676 pour le gold, pas plus, pas moins pour l'instant, 2300 milliards pour le crypto total. On est en train peut-être de ralentir ici, tout proche de la moyenne mobile 200, donc beaucoup y voient un futur bottom, avec peut-être le RSI qui nous annonce une petite, ce qui pourrait s'apparenter à une petite séance, en tout cas un double creux ascendant, si on peut l'appeler ainsi. Du côté de l'analyse technique, on a des Adam et Ève et tout ce qui va bien, larvé, pas larvé. Ça fait longtemps que je ne me suis pas replongé dans mes bouquins. Toujours est-il, on serait plutôt, selon les oscillateurs, en fin de correction qu'en début. Mais voilà, modulo le fait que les États-Unis, plus le monde, plus la macro et tout le tutti quanti, on ne sait pas trop où l'on va pour les prochains mois et les prochains trimestres. Et ayez bien en tête que Au plus, la situation traîne du côté comme ça de l'Iran, mais pas que. On a toute cette zone autour du Moyen-Orient qui a tendance, malheureusement, petit à petit à s'enliser. On peine, nous aussi, à avoir des informations, peut-être en tant qu'Européens, qui sont des informations au plus proche de la réalité, malgré ce que aujourd'hui nous apportent les réseaux sociaux en termes d'infos en direct. Donc c'est vrai que c'est peut-être une valse en deux temps, où on verra les effets délétères pour l'économie un peu plus tard, autour de l'été, automne. Et c'est pour ça que ça collerait vraiment plutôt pas mal si ça se déroule ainsi. Peut-être un rebond là au cours du mois d'avril qui nous laisserait un petit espoir ou je ne sais quoi, 70, 75, 80 du côté de Bitcoin. Et derrière, on se reprend une rouste autour de l'automne une fois qu'on passera à la caisse et que enfin ça se sera débloqué, peut-être, on l'espère, en tout cas d'ici là, autour de ce détroit d'Ormuz et de l'Iran, etc. Et c'est ce moment où, en apparence, ça vient à se débloquer, où finalement on passe à la caisse puisque l'économie a souffert tout ce temps, s'est maintenue la tête hors de l'eau, un peu trop bien d'ailleurs, et voilà, on connaît un petit peu l'histoire. Le Bitcoin 66-67, pareil, ça reste vachement dégradé quand même à court terme, mais les oscillateurs sont très bas, donc on n'est pas sur un début de correction, on est, comme je le disais la dernière fois, peut-être à 70% de ce bear market, mais les 30 derniers pourcents, c'est est-ce que on s'arrête à 60, est-ce qu'on va à 50, est-ce qu'on va à 40, voilà, on a pas mal de zones de jeu en dessous de la moyenne mobile 200 pour faire un petit peu le trauma un peu plus profond comme on l'avait fait en 2022, est-ce qu'on aura besoin d'en arriver là, est-ce que finalement le monde va partir un petit peu plus dans tous les sens, eh bien c'est ce dont il va falloir jauger jusqu'à la fin de cette année 2026, $2050 pour Ethereum sous le pivot des 2150, il n'arrive pas à passer. Et toutes les moyennes mobiles sont au-dessus, la 200 notamment qui est complètement à plat à 2440, et ça corrobore une zone clé 42-43 de RSI pour Ethereum qui nous permet finalement, en s'affranchissant durablement de cette zone, de rallier les 2008-2850 et ensuite 3000-3002, etc., et de se diriger, on l'espère au long terme par la suite, à nouveau vers les 4009 à 5000. Ceci étant dit, quand on regarde l'image de fond, eh bien, on est peut-être dans un grand triangle rectangle ascendant pour Ethereum. Donc, on va voir si on en sort par le haut, on pourra avoir un très beau bull run pour la seconde crypto-monnaie du marché. Les minières et tout ce qui s'ensuit, Marathon très dégradé, TerraWolf toujours haut dans un range, Riot, etc. Vous connaissez la musique, Circle qui avait bien, bien reculé suite à un premier pump qui était encourageant depuis les $50 jusqu'à 135. C'était pas rien. On s'est appuyé sur la moyenne mobile 20 il y a quelques jours, $83-84, on est à 90 actuellement, donc désormais il faut valider un nouveau point haut pour Circle. C'est pas si dégueu en vrai, parce que d'un point de vue purement technique, on est en train de respecter exactement ce que la technique est censée faire quand on a un actif qui est en train de bottom. Donc là, il faut par la suite tenir cette zone de $85-90 pour Circle, et ensuite valider un nouveau point haut, c'est-à-dire basiquement dépasser les $140-145, et on pourra revoir donc Circle repartir sur une trame haussière. Coinbase, pareil, qui essaie peut-être d'imprimer son futur double creux. En tout cas, c'est l'espoir que nous donnent le RSI et le MACD en bas. Le tout autour de la moyenne mobile 200. Là aussi, c'est pas pour se vanter ou quoi que ce soit. Vous savez que c'est pas du tout le mood de la chaîne. Mais pendant très longtemps, on a esquissé cette thèse que, comme désormais Coinbase est fortement institutionnalisé et fortement regardé des fonds et des investisseurs aux États-Unis, la moyenne mobile 200 serait payée très certainement et observée, puisque c'est considéré malgré tout à aujourd'hui, certes comme le risque maximal qu'on puisse prendre sur une action, puisque lié à l'industrie des crypto-monnaies, mais ça reste une société aussi qui a été bien capitalisée sur ce cycle. On est passé de $31 à autour de $440, donc on est venu chercher la capitalisation maximale de l'introduction boursière de l'époque, qui était déjà bien bien capitalisée. Donc aujourd'hui, le fait que le marché travaille autour de la moyenne mobile 200, c'est pas anecdotique, c'est juste les professionnels, les institutionnels qui sont câblés comme ça pour se dire, ok, quand on a un discount 200 semaines qui est à ce point important sur une action, on commence à rentrer. Ça veut pas pour ainsi dire que si Bitcoin finit sa route à 40 000, on verra pas peut-être $120, voire même $80 sur Coinbase, mais ça veut dire que pour les institutions, on voit que la moyenne mobile 200 systématiquement est intéressante. Et c'est marrant de voir finalement Bitcoin se comporter comporter de la même façon, ce qui démontre aussi que, comme on a refourgué les clés un peu du bus aux institutionnels au travers des ETF aujourd'hui, eh bien la moyenne mobile 200 sur Bitcoin sera beaucoup plus défendue en l'état que ce qu'elle a pu l'être sur le cycle précédent où c'était un peu la bérésina entre FTX, Terra, UST, etc. Là, je vais dans le sens clairement de ceux qui pensent qu'on pourrait déjà avoir bottom. MicroStrategy, pareil, contact à la moyenne mobile 200 il y a 3 semaines, $150, ça se fait repousser, on repart en direction des points bas, ça reste très dégradé, les oscillateurs sont extrêmement bas, en zone de survente, mais pour l'instant, eh bien, c'est pas la réaction escomptée du côté, malheureusement, de MicroStrategy. Il y en a une qui me fait plutôt plaisir, puisque, premièrement, on l'a rentrée en portefeuille, et je vous ai dit, quand je l'ai fait autour de cette zone ici, entre le 0,5 de Fibo, $75 et les 80 plus, on est à quasiment $100 pour Netflix, qui vient encore d'augmenter ses tarifs, donc ça a été salué, je suppose, par le marché. Du côté des autres actions, en ce moment, c'est difficile d'y voir clair, puisque les États-Unis souffrent, et surtout, on a une double souffrance qui est à la fois macro-monde et à la fois par rapport à l'IA, qui est en train de punir très largement les Microsoft, etc. Microsoft, bien entendu, sous la moyenne mobile 200, proche du support des $350, ça a été payé de mon côté sans trop sourciller, sans savoir sur quel pied danser une fois de plus si le monde va continuer d'accélérer à toute berzingue du côté de l'IA et si tous les jours Anthropic Claude va encore nous sortir un truc, bien que récemment ils se sont fait leak le code, alors c'était assez extraordinaire de voir ça. Total qui vient encore et toujours autour des 80 €, donc ça se passe plutôt pas mal pour Total ainsi que tout ce qui est autour de l'énergie, de la défense pour le secteur français. On a peut-être Schneider qui, autour de sa moyenne mobile 50 et 100, c'est un petit peu une zone dégradée ici. On a la 200 qui n'est pas si loin, à $195, et le support qu'il avait touché au moment des tarifs de Trump à $173. Donc si on le considère, par exemple, pour Schneider Electric, pour l'exercice mental, comme un altcoin ou comme quelque chose sur lequel on voudrait rentrer aujourd'hui, en prenant en compte donc le cours du moment à 236 €, la moyenne mobile 200 elle est à moins 17% et le support des tarifs d'avril et notamment qui avait été déjà un point dur en 2022, donc c'est un gros support pour le coup, est à moins 27%. Donc de la même façon qu'on fait des DCA quand on rentre sur des altcoins, sur des cryptos ou peu importe ce sur quoi on rentre, ça vous donne une aire de jeu qui pour les plus optimistes est à moins 15% et pour les moins optimistes, ceux qui pensent que Schneider par exemple décotera encore un peu plus, nous offre jusqu'à moins 27%. Et systématiquement, en fait, quand vous investissez sur quelque chose, soit vous êtes très affûté, vous êtes très pointu, vous lisez tous les reports, vous regardez en tant qu'actionnaire de l'entreprise tous les petits fascicules qui vous paraissent, vous connaissez les EBITDA, vous connaissez le price actual earning, vous connaissez absolument tout sur tout sur l'entreprise et vous rentrez en votre âme et conscience sur un prix qui vous paraît discount par rapport à ce que devrait coter le marché aujourd'hui pour des entreprises de ce type, ou si vous êtes moins érudit, vous vous dites « Ok, c'est une action sur laquelle, d'un point de vue technique, et quand on regarde les différents drawdowns au cours de l'époque, eh bien, on pourra avoir une zone finale de box qui se trouve ici, entre 170 € et 200 €, 210 €, et comme ça, vous positionnez soit vos ordres à l'avance, soit vous vous mettez des petites alertes, vous regardez jamais vos graphiques, et le jour où vous aurez toutes les petites cloches ou les mails qui vous parviennent, vous venez sur votre broker, vous achetez vos petites actions et comme ça, vous avez strictement jamais besoin de vous casser la tête. Du côté des alts, je regardais Algo, Yota, PP, Injective, ça reste très compliqué quand bien même, par exemple, pour Inge, on est sur un support long terme autour des $3, voilà, c'est très compliqué. Atom Cosmos, que dire? Tao BitTensor qui fait partie de ceux qui se tiennent largement la tête hors de l'eau, bien entendu. On a NIR également qui est pas très loin de son support, mais ça a été tellement dégradé, on est tellement revenu à des zones de 2023, voire de 2020-2021, qu'aujourd'hui, vraiment, plus que jamais, il faut faire ce travail de fond. Premièrement, de constater que face au dollar, c'est quand même assez catastrophique, les altcoins, et ensuite de le comparer face à Bitcoin, ou voire face à Hype, pourquoi pas, qui a énormément tenu sur ce cycle. À partir du moment où vous faites ce travail-là, je vais prendre AAV pour exemple, mais c'est peut-être un mauvais exemple, puisqu'en ce moment, effectivement, le fait que la vision soit un petit peu chahutée autour de la vision décentralisée, eh bien, on a peut-être AAV qui en pâtit aussi, mais on voit que face au dollar, eh bien, on est revenu dans une boxe long terme ici qui se comporte entre 45 et 115 dollars à peu près, qui pourrait être, si on n'avait pas tout ça au milieu, une zone de réaccumulation assez extraordinaire. Si on compare AAV au BTC, on voit qu'on est dans une trend baissière depuis mai 2021. On n'a jamais réussi à complètement renverser la vapeur. On a eu un moment porteur de mai 2024 à décembre 2024. AAV avait progressé à ce moment-là face à Bitcoin d'environ 250%. Mais vous vous doutez bien, quand on voit les 700% qu'a fait Bitcoin sur le cycle précédent, il valait mieux, plutôt que de se faire des nœuds à la tête du côté de AAV ou des différents autres altcoins, posséder juste du Bitcoin, faire son x3, x4, x5, parce que vous n'auriez pas rentré pile poil le x7 maximal d'une bougie basse baissière du bottom jusqu'à la bougie extrême de top de ce cycle autour de 125-126 000 dollars. Et vous gagnez une sérénité qui est complètement folle de ne pas aller comme ça sur des actifs. Et là, je ne parle pas forcément par rapport à AV qui vont vous faire un yo-yo complètement fou et qui vous démontre avec ce chart malheureux. Là, c'est AAV-BTC, mais c'est pareil pour 99,9% des altcoins. Au bout du cycle de 4 ans, systématiquement, ils sont perdants, l'immense majorité, face à Bitcoin. C'est une réalité. Le Topix du côté du Japon, et on clôturera là-dessus, qui essaie de se raccrocher à la branche de la moyenne mobile 20. Donc là aussi, ça avait pas mal reculé pour la partie asiatique la semaine dernière, voire ces 2-3 dernières semaines. Est-ce qu'on viendra jusqu'à la moyenne mobile 50? On avait eu les taux longs qui avaient augmenté de manière assez importante pour le Japon. C'est peut-être en train de se poser. Et donc on a les sociétés également qui sont un petit peu au pas de ce côté. Donc à voir ce que ça donnera par la suite, mais en tout cas, on est dans un monde qui pressent le fait qu'on a petit à petit, et finalement, c'est la cerise sur le gâteau, ce qui est en train de se passer au niveau de l'Iran, ça peut accélérer un petit peu les choses. Le monde qui rentre dans cette stagflation, avec une inflation qui repart à la hausse, mais pas de manière délirante, mais qui va impacter le consommateur final au long cours, et qui lui, finalement, quand il n'y a pas la confiance des ménages, et quand on va faire le caddie de course et que ça passe tous les 2, 3, 4, 5 ans de 100 balles à 200 balles, à la fin, plus personne s'en sort puisque, bien entendu, les salaires ne suivent pas. Et c'est quelque chose qui, petit à petit, de manière un peu dans l'ombre et sournoise, finit par contracter très largement l'économie. Économie sur laquelle, aujourd'hui, en plus, on a ces bails d'IA qui retrace également la trajectoire du monde du travail, de comment l'économie va être gérée. Donc il y a pas mal de papiers qui sont parus autour de ça et que je trouve très intéressant. On essaiera bien entendu d'en faire une émission à part entière. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions à se poser pour l'investisseur avisé pour ces 20 prochaines années, puisqu'on nous parle toujours des 100 dernières années du S&P, des 20 dernières années qui vous font 8 à 10%, mais qui vous dit que les 20 prochaines années, ça ne va pas être plutôt du 3%, ou aller à minima les 5 prochaines, comme le disait JP Morgan, Goldman Sachs, etc., le miroir inverse de ce qu'on a connu depuis 2020, ou voir petit à petit, on aura quelque chose qui va être transcendé d'un point de vue économique à partir du moment où on aura les super IA, etc., et où là, on gagnera énormément en gains de productivité, en gains de croissance, et de par le fait que les machines peuvent travailler, la robotique, etc., 24/7, c'est déjà un petit peu le cas. Mais à ce moment précis, la question légitime se pose, que va devenir l'humain face à tout ça? Est-ce qu'on n'aura pas besoin d'un revenu universel? Est-ce qu'on n'aura pas besoin de super taxation sur ces super profits que permettront les IA? Voilà, beaucoup de questions qui, je pense, dans les 5 prochaines années, quand on voit l'alerte de Google sur le quantique, je pense que les 5 prochaines années vont pas être des pics et des verres. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve d'ici lundi. Ciao, ciao.